Donc, tu
Alors,
remets
je vais
attaquer la
faire.
dernière partie.
Ok.
Le plat de résistance, la cerise sur le gâteau, la vedette, le singe, la claque après la soirée. Et je vais vous
Lance
mettre un peu
bien
la
tes voix.
pression, c'est normal. Une campagne qui a été rééditée, c'est pour ça que j'en parle, qui a été
Ah bon?
même travaillée par.
Trois fois.
Ouais, qui a été travaillée dans la dernière édition de Sans Détour par Carter, qui est sur TOC. Donc, eh bien messieurs, je vais vous laisser. Alors, je sais pas comment vous voulez procéder. À la limite, on va dire que, à la limite, Dweller, tu lances, et puis Beast Bastard, comme tu feras un peu moins bien, si tu veux rajouter des choses, tu le coupes,
Mais
tac.
peut-être que Beast pourra enrichir sur les nouvelles parties que je connais un peu moins. Donc,
C'est-à-dire,
bah peut-être
t'as joué la
les.
vieille version, toi?
Ouais, voilà.
Ouais, moi j'ai joué la version, on va dire, intermédiaire avec le
Voilà, donc
petit connard.
tu pourras rajouter alors.
Ouais, pas de problème.
Ça marche.
Bah, allez-y, messieurs, c'est parti. C'est
On
dans
a
le
combien de
vent.
temps? Rappelle-moi.
Entre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes,
Ok,
max.
parfait. Bon, alors les fungi, donc, bah, tout le monde a entendu parler. On va dire que c'est un vieux classique du jeu. On va dire que ça s'inscrit dans la tradition des grandes campagnes où on va combattre un culte aux quatre coins du monde pour empêcher l'apocalypse. Elle a le mérite d'être la première, sûrement, ou plus exactement la deuxième après les ombres de Yogg-Sothoth, mais beaucoup plus réussie. Le point commun, c'est qu'elle a un titre qui n'a rien à voir avec son intrigue, ou quasiment. Comme à
Comme à
l'époque,
l'époque.
c'était la mode. Donc, on va dire l'argument, si on le développe en rapide, en fait, les personnages vont être amenés à faire la rencontre d'un médium lors d'une enquête apparemment simple. Un jeune homme, un médium qui a disparu. Ils vont enquêter sur sa disparition, comprendre que l'individu faisait des rêves un peu étranges. Et puis ils vont le sauver, on va dire, c'est le préambule de la campagne. En fait, ce médium, Paul Lemont, a fait l'objet d'une possession par les esprits de la grande race de Yeet, comme le protagoniste de la nouvelle de Lovecraft dans l'Abîme du Temps. Il s'en souvient plus, mais ça commence à remonter. Il fait des cauchemars, il a des visions d'apocalypse, en fait, à la fois à cause de ce voyage dans le temps et en raison d'une mémoire génétique, on va dire. Et donc, il a des visions d'apocalypse. Donc, il va être un peu le fil conducteur, peut-être un peu linéaire. C'est un peu le côté linéaire de la campagne, c'est-à-dire qu'on va être amené, un indice va vous emmener vers un endroit et ainsi de suite. C'est le côté classique de la campagne. Donc, en fait, Paul a des visions et ces visions vont entraîner les joueurs. Il a des visions d'une grande bête qui ravage le monde. Voilà, donc ça, c'est le premier chapitre. Donc, le premier chapitre est assez sympathique. Il se présente comme une enquête un peu policière pour retrouver ce médium qui a disparu. Et puis, en plus de ça, il n'est pas mort. En vérité, il est juste dans une maison de repos parce que son impresario veut le ménager un petit peu vu qu'il est exténué par ses cauchemars. Ce que j'aime dans ce scénario, c'est qu'on y croise un protagoniste qui me semble assez intéressant, qui est un homme, en fait, qui est un agent de la grand race et qui va essayer de faire taire Paul, en fait, parce qu'il craint que Paul, petit à petit, se rappelle et soit capable de révéler les machinations de la grande race. Donc, c'est un personnage assez sympathique qui revient, qui sait se déguiser. Donc, il a un petit côté némésis, pour reprendre un peu ce qui a été dit tout à l'heure, qui vient là où on l'attend jamais, jusqu'à même dans la dernière scène, quand on retrouve Paul contre toute attente, en bonne santé. Il peut arriver déguisé en infirmière pour se. Bref. Donc c'est un côté assez sympa. Voilà,
Voilà,
le deuxième donc le deuxième chapitre, en fait, est un peu plus tard, on peut même l'espacer. Paul a des nouvelles visions et il va donc en faire part aux personnages qui l'ont sauvé. Il rêve d'enfants morts à Boston. Donc effectivement, peu de temps après, des enfants meurent à Boston ou disparaissent. Ça nous emmène sur les traces d'un meurtrier qui amène vers une vieille bâtisse dans les vieux quartiers de Boston. Et c'est là, en fait, dans la bâtisse, qu'on va découvrir des documents sur les gens qui l'ont habité. Le tueur d'enfants est assez périphérique sur l'ensemble de la campagne. C'est un enfant qui est né d'un accouplement entre la femme d'un scientifique qui vivait dans la maison et une entité d'outre-espace. Mais par contre, ce sont les documents qu'on va.
Waouh.
les documents qu'on va trouver dans la maison qui vont commencer à mettre les joueurs sur la piste du culte, puisqu'on y trouve des correspondances avec un mystérieux baron Hauptmann qui semble-t-il, vient de Roumanie. On comprend qu'ils sont tous en train d'intriguer autour d'un mystérieux jeune maître Édouard, une espèce d'individu, un enfant qui semble-t-il est très a une importance capitale pour des projets que l'on comprend être en rapport avec les visions de Paul. Donc le scénario est assez sympathique là aussi. Il a un petit côté malsain avec cette vieille dame qui vit toute seule dans cette maison et qui est tellement perdue la boule qu'elle ne réalise pas que l'enfant en question est une monstruosité protoplasmique qui vit au fond du puits, à qui elle donne des vieux poulets pourris. Et comme elle a un peu Alzheimer, et ben elle a oublié de lui donner son poulet de la semaine et ben le pauvre petit, il n'est pas méchant.
Il va se nourrir, quoi.
Il a faim et il va manger des enfants. Parce que les enfants sont pas très puissants, pas très rapides, il peut les bouffer. Et ce qui est assez sympa, c'est que justement le monstre en soi est relativement innocent. Son seul défaut, son seul péché, c'est d'avoir été engendré par une monstruosité. Et malheureusement, c'est plutôt un espèce d'enfant sauvage qu'on a enfermé dans une boîte pendant toute sa vie. Donc, si on arrive à faire ressortir ça, il peut y avoir une forme d'empathie avec quelque chose d'abominable et qui tue des enfants, mais qui en est fini, il n'est responsable de rien. C'est le petit côté sympa.
Ouais. Mais les lunettes aussi.
Et donc après il y a des petits à côté, donc les lunettes effectivement du docteur Cornvalis permettent d'entrevoir les dimensions, et on comprend que c'est comme ça que sa femme, en fait, par erreur, ayant chaussé les lunettes, l'artefact de son mari, par erreur, elle a vu une chose qu'il a violée et qu'il a inséminée, et c'est ainsi que naît Jérémy, le monstre du puits qui tue les enfants. Mais en fait la fonction du scénario est vraiment en fouillant la maison, de mettre les joueurs sur la piste, en fait, de ce culte, la confrérie de la bête, en fait, qui n'est peut-être pas encore nommée à ce stade de l'histoire. Le troisième chapitre va nous envoyer en Roumanie. Alors, c'est le côté un peu années 80, qui est moins grave que dans Les Ombres de Yoxotot, mais bon, moi, j'ai un peu un problème avec... Je suis un détective privé bostonien. Bon, ok, j'ai compris ce qui tue des enfants. Tout à coup, je trouve une lettre qui dit qu'il y a un baron en Roumanie et qui a l'air méchant et qui complote. Et donc, je vais aller en Roumanie. Voilà, je pense on est un peu dans ce
les
côté.
Les barons en Roumanie sont
très méchants. Il y a du boulot à faire sur l'implication des joueurs.
Voilà, il faut travailler la question pour que les joueurs aient une vraie raison de dire bon, ben, je quitte ma Boston natale et je vais en Roumanie. Troisième chapitre en Roumanie. Alors là, vous pouvez vous appuyer à fond les manettes sur les vieux films de la Hammer. Et on est à fond dans l'ambiance vieux film d'horreur en noir et blanc. Donc vous pouvez y aller, Dracula de Coppola. C'est-à-dire que les joueurs vont aller en Roumanie du côté d'un village qui s'appelle Klausenburg. Et un petit village encore plus reculé de Drosbona. Et là, on est dans la vieille église en ruine, les villageois qui vous regardent de travers, personne ne vous parle, les Hongrois avec grosses moustaches et grands couteaux qui ont l'air bien méchants et qui servent le baron dont on ne sait pas grand-chose, on l'a pas vu depuis des années, mais il vit dans le vieux château décrépit en haut de la colline. Donc là, je pense qu'il y a une vraie belle ambiance qui peut être mise en place. Les joueurs
donc personne parle anglais, quoi.
Voilà, c'est ça, on y va à fond, ils parlent tous...
Gêner mes joueurs.
Enfin, ils parlent tous le roumain, bon, avec deux, trois personnages qui sont là pour aider un petit peu le prêtre du coin. Donc là, on va jouer la carte du vampire, c'est-à-dire tout est fait pour faire penser que le baron Hauptmann est un vampire, faut y aller, ce n'est pas un vampire. En fait, le baron Hauptmann est un espèce de Gilles de Rais, en fait, un ancien chevalier teutonique qui, dans une tradition lovecraftienne, a survie en réinvestissant les corps de ses descendants façon Charles Dexter Ward. Donc il vit ainsi, prenant la place de ses soi-disant héritiers pour récupérer son château. Donc les joueurs vont enquêter, vont certainement vouloir aller soit fureter dans le château discrètement, soit se faire inviter par le baron. Alors là, vous pouvez sortir le carrosse à la Dracula. S'ils sont invités, je pense que ça va très mal tourner, parce que ça va être séance de torture dans le donjon, mutilation en tout genre, parce que le baron Hauptmann se délecte de la souffrance des gens. C'est pour ça que j'évoquais Gilles de Rais, je pense que ça peut être un parallèle. La fonction là aussi, c'est que dans ce château, là, on va en découvrir vraiment davantage, on va comprendre un peu plus des documents très anciens qui permettent de retracer l'histoire de cette confrérie, comprendre qu'ils attendaient un espèce de messie, un enfant particulier qu'ils ont pris sous leur tutelle, qu'ils ont éduqué. Alors ensuite, on y découvre aussi des parchemins, dont notamment, c'est un des multiples endroits où on peut découvrir le sortilège qui peut permettre à la fin de lutter contre le rituel, à savoir de renvoyer la bête. Le côté intéressant de cette campagne à ce niveau-là, c'est que ce parchemin peut être trouvé dans de nombreux endroits. Alors, dans le château en question, si jamais tout le monde se fait capturer, il y a un PNJ qui sert un petit peu de va-tout aux joueurs, un espion bolchevique qui enquête sur la disparition d'un bataillon à l'époque de la Révolution russe, me semble-t-il, ou peut-être de l'exode des Russes blancs.
Donc, c'est destin, d'ailleurs.
Voilà, il peut sauver les joueurs si jamais ils sont dans le donjon. Une chose intéressante, je pense, c'est que dans un des décrochages de la campagne qui peut s'amorcer là, c'est qu'on comprend que Outman et les siens ont été découvrir des documents très mystérieux et inhumains dans une bibliothèque qui n'est pas de notre monde, à savoir la grande bibliothèque de Kelaeno, comme l'antichambre de ce forum TeamSpeak. Donc moi j'aime beaucoup parce que il y a un petit côté comme ça, on va chevaucher un biaki en buvant de l'hydromel de l'espace. Ça fait partie des trucs qu'on a tous trouvé sympa en lisant les livres des règles, mais qu'on n'a jamais l'occasion de sortir. Si on a joué à Horror Arkham, la bibliothèque de Kelaeno, on la connaît, c'est un des autres mondes. Enfin, il y a quelque chose de très sympa là-dedans.
Ah, original, on avait commencé le podcast en étant des chats dans Kadat, là on finit en buvant de l'hydromel à Kadat.
Voilà. C'est bien ça. Donc on peut sur la base de ces documents, je pense qu'il faut un petit peu semer un peu plus d'indices pour que les joueurs comprennent que c'est possible et faire ce voyage complètement inconcevable à l'autre bout de la galaxie et plus loin même encore. Et puis il y a un petit côté comme ça, je rentre dans une bibliothèque gigantesque, des architectures dignes des contrées du rêve, avec le dormeur, une monstruosité qui dort dans un lac. C'est un petit côté Moria aussi, avec le gardien devant. Je pense que ça peut être quelque chose de très sympa. Donc là aussi, dans cette grande bibliothèque non humaine, on peut trouver notamment à la fois le sortilège de renvoyer la bête, mais aussi un autre antidote, on va dire, pour finir la campagne, une sorte de barrière magique qu'on pourra dresser pour emprisonner la bête au moment où elle reviendra. Là-dessus, donc, dans le château, on trouve également l'idée que une tombe, Outman et les autres se sont intéressés à une tombe. On comprend en fait la genèse de la confrérie. Elle remonte en fait à un prêtre égyptien de la 15e ou 16e dynastie, Nofruka, à ne pas confondre avec Nefrenka, les masques de Neratotep. Un prêtre égyptien qui en fait avait prophétisé cette chose.
Je crois là-dessus, il y a sur Rollis TV.
Ils sont en train de tout refaire. Hein.
Le dernier épisode sur Rollis TV, ils en parlent et ils disent qu'en fait c'est un amovier copié-collé, mais c'est le même.
Alors non, si on lit les masses de Nyarlathotep, c'est pas le même en fait, parce que ça correspond pas du tout à la même époque.
Mais il voulait utiliser le même apparemment d'origine, parce que c'était un copié-collé qui a mal été fait apparemment.
Je sais pas.
Il partait sur la même idée, mais c'est pas grave.
Bah moi, disons que je pense qu'effectivement, en lisant ça, on peut essayer de créer une jonction, à mon avis. Nefrenka, c'est quand même quelque chose comme 1000 ans plus tard, en fait. Donc lui, Nefrenka, parce que le problème là où ça coïncide pas, c'est qu'on nous dit que dans les masses de Yartotep, Nefrenka est tué par le pharaon Sneferu. Et emprisonné sous la pyramide penchée de Dachour, alors que Nofruka des fungi de Yugoth s'exile avec sa cohorte et ils vont finir dégénérés dans les ruines de Garnet chez les Ctoniens. Donc c'est.
D'accord. Voilà.
Alors après, on peut imaginer que ce soit une réincarnation, pourquoi pas. En tout cas, la jonction peut être que la bête que l'on doit arrêter à la fin est un avatar de Nyarlathotep. Donc on peut broder et créer des liens. Je pense que c'est quand même intéressant.
Ouais, c'est ça. Pas très éloigné.
Voilà. Il y a quand même pas mal de convergences. Donc en fait, on comprend dans les documents qu'on trouve dans le château qu'apparemment il s'intéresse à l'Égypte. Donc bien évidemment, en bon investigateur des années 80 que nous sommes,
on y va.
Et on va s'intéresser à l'expédition Galloway, qui est financée par Miskatonic, bien évidemment. Et on va se retrouver donc à essayer d'approcher cette expédition, de se faire enlever par des brigands du désert qui, plutôt que vous égorger, parce que vous êtes des Occidentaux et que quand même on touche pas aux Occidentaux, ils vous jettent dans un gouffre dans le désert qui vous mène à la tombe de Nefrenka et vous permet là aussi de trouver des renseignements, le sortilège de renvoyer la bête. On va se sortir de la tombe, errer dans le désert pour finalement retrouver l'expédition. et comprendre qu'il y a un traître dans l'expédition à la solde du baron Hauptmann, alors même qu'on est en train, que l'expédition va découvrir un site très important, la sépulture de. Enfin, c'est pas tout à fait la tombe, en fait, excusez-moi, dans laquelle on vous jette, mais un lieu important où Nefrenka a eu ses révélations. Et puis, l'expédition Galo va trouver la tombe, va découvrir d'ailleurs que quelqu'un semble
C'est
être
les joueurs qui vont
passé.
permettre de trouver la tombe.
Oui, grâce à leur vision qu'ils ont eue, je crois d'ailleurs.
Non, c'est là, ils trouvent une carte chez le baron Hauptmann.
Voilà, ok, c'est ça, exact. Et donc, bon, ils comprennent que quelqu'un est déjà passé avant, bah, Hauptmann. On a une séquence action avec attaque de Biaki dans le camp. Il y a une chose un peu idiote là aussi, c'est que quand on fouille la tombe du vilain traître Abdalkatif, on trouve une lettre du baron Hauptmann. Donc bien sûr, il a une lettre, mais il la garde, il ne la détruit pas, il ne la brûle pas, il ne la mange pas, il la garde pour qu'on la trouve. Bon, bref, on peut peut-être s'en passer. Et voilà. Et puis on conclut donc en ayant découvert un certain nombre de renseignements, une fois encore d'ailleurs le sortilège de renvoi de la bête, on comprend un peu plus. Je pense que dans le chapitre égyptien, la campagne, on va dire, la note d'intention, c'est que ça pourrait se passer en 1928, sachant que la chute potentielle, les machinations de la confrérie peuvent expliquer aussi le crash de 29. Donc,
D'accord.
si c'est en 28, on va dire que c'est 2 ans après les masques Nyarlathotep, ou 3. Donc ça peut être sympa peut-être au Caire de faire re-rencontrer le professeur Kafour. Une piste intéressante était celle développée par le magazine World of Cthulhu, qui disait qu'il y aurait une confrérie qui s'appelait l'épée de Sneferu. Je ne sais pas si certains de vous ont lu ça.
Non.
Non. En
Non.
fait, il y a tout un article sur deux numéros de cette revue qui est très intéressante en fait et qui du coup vous parle d'une société secrète qui s'appelle l'épée de Sneferu, fondée à l'époque du pharaon Sneferu lorsqu'il a lutté contre Nefrenka dans les masques. Et donc qui continue. Et Kafour, dans ce contexte-là, n'est pas juste un occultiste au musée, mais carrément fait partie de cette secte en fait. Mais ce n'est pas une secte qui va forcément tendre les bras aux Occidentaux. Elle est quand même très 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 prudente. Moi, dans les masques, je l'ai utilisé comme tel, mais ils n'ont jamais vraiment su. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose, mais voilà. Donc c'est assez intéressant. Ça peut même être utilisé à notre époque. Voilà. Donc on peut utiliser ça, je pense. Je pense que ça peut être très sympa pour des joueurs qui ont joué les masques à ce moment-là de retrouver Kafour. Pourquoi pas imaginer que la confrérie de la bête aurait des liens avec la confrérie du pharaon noir, ressortir ce bon vieux Omar Chakti. Enfin, je pense qu'il y a des possibilités pour pouvoir mettre du lourd, quoi. Alors après, bah, vous intercalez quelques scénarios, et puis Paul, à nouveau, des cauchemars, des visions. Il voit des tremblements de terre en Amérique du Sud, et donc on va en Amérique du Sud. Alors, en Amérique du Sud, on va aller s'intéresser à des tremblements de terre au Pérou, qui vont nous emmener vers des mines exploitées par une filiale de la NWI, la New World Incorporated, une société multinationale dirigée par un philanthrope très en vue, qui s'appelle Edward Chandler. Et quand on commence à s'intéresser à la multinationale, alors on va peut-être faire la connexion avec le jeune maître Edouard, l'enfant tant attendu par la confrérie, qui est donc en fait le chef de cette multinationale qui en fait a pour but de déstabiliser le monde et de provoquer l'avènement des grands anciens. Alors c'est la première fois avec cette campagne que la NWI fait son apparition. Vous la retrouvez ensuite dans une campagne qui s'appelle At Your Door, qui est une campagne contemporaine. Et on la retrouve également mentionnée dans Unseen Masters, les maîtres indicibles, je crois, en français, chez Sandeco, où il y a un scénario qui en parle beaucoup, en fait, qui parle de cette société. Bon, donc, elle rentre dans le canon, on va dire, non pas de Lovecraftien, mais en tout cas du jeu L'Appel de Cthulhu. Elle est mentionnée un certain nombre de fois. Et donc, voilà. Donc, en fait, la société en question exploite des mines, il y a des tremblements de terre, c'est bizarre. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les voilà, les fungi de Yugoth de la campagne. Ils sont là-bas, et en fait, la NWI, pratiquement personne n'est au courant, sauf le haut responsable sur place, traite avec les mingos, en fait, qui exploitent des mines pour extraire un minerai. Ce minerai va servir à une partie du grand plan de la confrérie, c'est-à-dire faire invoquer les doles encore le genre de monstre qu'on sort pas tous les jours de son escarcelle. Ils veulent invoquer des dolls en masse pour ravager la Terre, et pour cela, hein, utiliser un encens un peu spécial, et le produit de base, c'est un minerai qu'on trouve là-bas. Donc les joueurs vont arriver là-bas, enquêter. Alors il y a un truc un peu étrange, on arrive dans ce vieux village au fond du Pérou qui s'appelle Huancucho, et là on retrouve le vieil oncle Victor qui vous avait fait sauter sur ses genoux. Et oui. Bon, je pense que c'est le PNJ sympa qui est là pour vous aider, vous raconter 3-4 rumeurs. Je crois qu'on peut. Ou alors Victor, on l'a introduit dans 25 scénars avant, ou alors on laisse tomber, je pense. Mais ceci étant, donc, on se retrouve au milieu d'une histoire avec cette mine. À la fois, la NWI finance également des guérilleros contre le gouvernement dans son grand but de déstabilisation de l'ordre mondial. Donc, il y a des histoires de trafic d'armes. On a des Indiens, évidemment, sages et qui ont été foutus dehors par l'exploitation minière et qui, eux, sont détenteurs de certaines vérités, notamment d'un vieux lieu de culte de Yig. Et d'une vieille légende qui annonce une espèce d'étrange personnage qui pourrait venir. Et donc, dans le scénario, on vous propose un personnage qui s'appelle l'ombre qui marche, Ngansa, un indien pâle, en fait, qui vient un peu comme une présence énigmatique et qui, en fait, est un ennemi des fungi. Alors, c'est un peu bizarre parce que Keith Herbert nous invente ce personnage et il va nous le recaser un peu plus tard dans, pour ceux qui connaissent, évidemment, vous aurez fait le parallèle avec le rejeton d'Azathoth, le père fantôme. Là aussi, on a un indien albinos avec son grand bâton qui est un ennemi des fungi et compagnie. Et donc là, il y a un truc un peu étrange parce qu'on nous le présente comme un indien alors que dans le rejeton d'Azathoth, c'est un espèce de serviteur d'Aibon. Il est peut-être indien parce qu'il a traîné sa bosse en Amérique, mais il est plutôt hyperboréen, si je me souviens bien, dans le rejeton. Donc là, il y a aussi une petite dissonance à régler, mais ça peut être un moyen d'introduire ce personnage, peut-être en le réécrivant, on va dire, à la lumière du rejeton d'Azathoth, pour que si un jour on joue le rejeton, là aussi on ait un effet clin d'œil. Alors le scénario n'a pas de fin vraiment défini, on peut aller faire tout péter dans la mine, on peut découvrir ce qui est assez intéressant là aussi, une des petites originalités de la campagne, c'est que si on explore les mines, il y a un portail qui vous mène vers une base lunaire des fungi, donc je trouve assez sympathique l'idée des investigateurs qui se retrouvent en gravité zéro tout à coup à faire des bonds à la Tintin, on a marché sur la lune, chez des fungi, le côté un peu complètement extraterrestre, on peut faire très peur aux joueurs et leur proposer un environnement un peu inédit, quoi.
Coupe un peu au plus court parce que c'est. Ouais. Je suis désolé, mais c'est intéressant, mais ça peut durer longtemps.
Ok.
Donc, on n'arrive pas à la fin, là, quand même.
On arrive à la fin. Donc, ils vont découvrir ce minerai, ils comprennent que le minerai est acheminé à San Francisco, à un certain Langfu. On va à San Francisco dans l'épisode d'après, on enquête, on découvre donc les machinations de Langfu, un grand sorcier qui fait partie de la confrérie, avec ses profonds. Donc là, on ressort un petit peu les hybrides, les profonds, voilà. On comprend aussi que l'encens est acheminé à des temples. C'est une espèce de religion un peu New Age, étrangement avant l'heure, je dirais, qui s'appelle Ranpaku. Et c'est ça le grand plan aussi, c'est qu'ils ont créé une espèce de religion et à l'insu des leaders très peace and love, ils vont leur faire chanter un grand chant d'amour fraternel qui va en fait invoquer les dolls, quoi, le jour de la bête. Et puis, donc, on va enquêter, on va comprendre aussi qu'on va se faire attaquer à San Francisco, on va remonter l'enquête, on va arriver à des laboratoires de la NWI, très high-tech, avec des robots avant l'heure, des choses comme ça, un petit peu de la technologie assez avancée, en fait. Et on comprend que, là aussi, il y a un plan, ils ont implanté des espèces de modules de contrôle dans des individus qu'ils utilisent un peu partout pour noyauter des organisations anarchistes, etc., pour, encore une fois, foutre le bordel le jour J. Et puis au final, ben on comprend, on a la date, on sait que ça va se passer au Caire, on arrive au Caire comme au bon vieux temps des masques de Nyarlathotep, et ils vont invoquer la bête. La bête, c'est rien d'autre que Abuol, le père du vide, l'avatar de Nyarlathotep, qui est le sphinx sans visage. Donc le sphinx va carrément se lever et marcher pour tout détruire le Caire et faire une croisade de destruction, sauf si on peut le renvoyer avec le sort, sauf si on dresse la barrière. Alors, c'est très difficile de réussir cette campagne au final, parce qu'il faut arrêter la bête, mais il faut aussi empêcher les dolls. Donc, ça suppose que les joueurs aient, par exemple, une fois les renseignements en main, contact des gouvernements, qui vont pouvoir un peu partout empêcher les temples de Ranpaku d'invoquer les dolls. Donc, je pense que c'est pas si facile de réussir.
C'est l'équipe de la terreur en plus.
Voilà, en plus, les organisations anarchistes. Hélas, je pense que c'est pas
ça
les joueurs qui peuvent faire
coins,
le
hein.
Voilà, c'est le gouvernement.
Ouais, c'est violent.
Petite accroche Delta Green, peut-être, à ce moment-là. C'est-à-dire, les ancêtres de Delta Green peuvent peut-être être là dans dans Filigrane. Voilà, donc
Voilà.
au final, une campagne assez linéaire quand même, on va d'un indice à un autre, elle est classique, elle propose quelques situations assez sympas, elle a le classicisme assez sympathique, des PNJ comme Outman qui sont assez mémorables. Voilà un peu ce que j'en dirais pour en faire un résumé que j'ai un peu long, désolé.
Bastard, des ajouts?
Alors, bah, au niveau des scénarios qui ont été rajoutés dans la nouvelle version qui s'appelait bah, Le jour de la bête, qui est là, qui est un titre qui semble plus en accord avec la dans la campagne,
Claire.
ils ont rajouté trois scénarios. Donc, un scénario d'intro qui permet de faire juste connaissance avec Paul Lemonde. C'est un scénario de maison hantée que moi j'ai trouvé absolument génial. Le joueur m'en reparle régulièrement de ce scénario-là. Enfin, voilà, c'est une séance de spiritisme avec Paul Lemonde qui va faire revenir les esprits dans la maison hantée, justement. Et c'était vraiment très oppressant. Il y a des joueurs qui vraiment disaient, moi j'aurais jamais peur, ils se sont mis à vraiment avoir les foies comme c'était pas permis. Moi j'ai trouvé ça super, ce scénario-là. Et donc c'est le seul but, c'est de faire connaissance avec Paul Lemonde. C'est-à-dire qu'après, quand ils doivent le rechercher dans le scénario de New York, bah, ils ont une empathie
Il est déjà
directe avec
là,
le
ouais.
personnage et après ses rêves, ils les prennent un peu plus au sérieux. Il y a quand
Beaucoup
même
mieux, ouais.
quelque chose qui paraît plus naturel par la suite. Le deuxième scénario qui a été rajouté, c'est alors ça se passe à Rapid City, dans les montagnes noires, il me semble. Je m'en souviens pas très bien
C'est
parce que
ça, Black Hills.
Black Hills, c'est ça. Ouais. Donc ça, moi, c'est pas le scénario que j'ai préféré parce que je trouve que là, on fait intervenir trop vite le côté mythe, alors qu'il était vraiment en filigrane jusqu'à Boston. Là, tout d'un coup, on se le prend en pleine face avec les Shans, justement, qui ont entre guillemets envoûté des mineurs dans une succursale de la NWI dans les Black Hills.
Ouais, c'est
Ah,
pour exposer la NWI, quoi, en
voilà, mais
amont.
je trouvais que ça faisait un peu trop tôt, moi. Et je trouvais qu'il y avait vraiment le côté mythe tout d'un coup qui était vraiment violent, quoi, pour le. Enfin, on y arrivait
D'accord.
vraiment les pieds dans le plat, quoi, avec le grand Python, le grand vaisseau spatial dans la montagne, etc. Et bon, le côté indien, chamanisme indien, ça par contre c'était vraiment très sympa.
Le
J'ai
problème,
aimé.
c'est qu'il y a un gros risque de redite avec le chapitre
Ah bah le
péruvien.
chapitre du Pérou, c'est pour ça que moi je l'ai pas trop appuyé dessus, quoi. Donc, voilà, j'en ai pas fait grand-chose de ce scénario-là.
Et le
Par contre,
troisième?
ah bah le troisième, moi je l'ai adoré ce scénario-là. C'est un scénario qui se passe à Londres. Et là, il y a un ancrage historique super. Donc là, on voit toute la société politique de Londres avec les membres du Tory de Londres. Ça, on y arrive par un rêve de Paul Lemonde. Alors le petit défaut, c'est que bah, en fait, on se retrouve à Londres alors qu'avant on restait toujours aux États-Unis. On retourne après aux États-Unis pour Boston, justement. Donc après, c'est à voir comment on l'inclut, quoi. Il y a peut-être moyen de l'inclure après le scénario de Boston, peut-être. Je
Et
sais pas.
l'argument, c'est
pour
quoi? Parce que
éviter
je l'ai pas
les...
lu. Et l'argument, c'est un rêve de Paul Lemonde qui rêve que Londres va brûler, quoi. Londres va brûler, etc. Donc c'est un peu le même argument, un peu tiré par les cheveux. Et donc les joueurs y arrivent à Londres, justement, enquêtant sur ce qui s'est passé à Londres. Et ils commencent à rechercher ben, ce qui a pu se passer à Londres dans ces choses-là. Très bien comment ça se passe à ce niveau-là. Quel est l'ancrage exact? Ce dont je me souviens, c'est que les joueurs doivent vraiment aller voir les partis anarchistes de Tooting. Ils vont dans différents quartiers de Londres, donc ils visitent la haute société politique. Et surtout, leur ennemi principal, c'est un homme serpent qui a infiltré un groupe d'extrémistes de droite anglais, et qui sont les adversaires des anarchistes, entre autres. Et donc, il y a eu vraiment quelques scènes mémorables, quoi, en particulier avec les joueurs dans le congrès des fascistes anglais, à essayer de, bah, voilà, ne pas parler avec leur accent américain. Enfin, voilà, c'était très, très fun. Et surtout, l'ennemi en question, Lewis, c'est un homme serpent qui, en fait, bah, c'est un peu lui qui est à la source des expériences qui vont donner les fils de la terreur par la suite.
Vivait-il chez un peintre quelques années auparavant?
Ah ouais, c'est vrai.
Vers son
Ouais, c'est vrai.
masque.
Et donc, cet homme serpent-là, donc il échange forme, forcément. Donc, ça, c'est aussi sympa, on peut jouer là-dessus pour le confronter aux joueurs. Il semble d'ailleurs qu'il est une jolie poupée, justement, qui flirte avec des anarchistes aussi, parce qu'il essaie de monter les anarchistes vers un côté beaucoup plus violent, histoire de créer les fils de la terreur par la suite, quoi. Et ce personnage-là, moi, enfin, il avait survécu à la fin du scénario. Il était revenu pour un scénar absolument mémorable par la suite que j'avais boutiqué au moment de la pause, là. Voilà. Donc, l'intérêt de ce scénario-là, c'est vraiment de placer les fils de la terreur un petit peu en amont. Et Et surtout, bah, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était l'ancrage historique du scénario, quoi.
D'accord.
Tous les groupes, les différents groupes politiques de l'époque. Enfin, il y avait c'est en plein pendant les grèves, en plus, des époques-là, les grèves ouvrières, etc. Enfin, moi, je trouve ça vraiment très, très vivant. Pour le coup, quand les personnages, enfin, les joueurs avaient trouvé ça très vivant.
Ok. Bon,
Voilà,
bah, c'est
pour
good.
l'ajout.
Bon, bah, messieurs, je pense qu'on a fait le tour de votre côté.
Ouais. Si, peut-être un truc quand même très vite, c'est que je pense que cette campagne qui est plus ou moins estampillée années 20, mais ils le disent au début qu'elle peut être déplacée, à mon avis elle pourrait gagner à être soit jouée dans les années 70 pour le côté Ron Paku, culte New Age, les hippies, ça pourrait largement aller, avec dans les années 70 le terrorisme à fond les ballons, Brigade Rouge et compagnie, ça correspond assez bien à l'époque, les attentats de Munich,
La
etc.
bande à Bader et compagnie,
La
ouais,
bande
c'est ça.
d'Abadère. Donc je pense que si vous le mettez dans les années 70, ça, je pense que ça prend une vraie
Ah, bonne idée,
signification.
ouais.
Ou alors, de nos jours, avec tout le bordel ambiant qu'on a, le New Age d'un côté et Al-Qaïda, l'État islamique. Donc je pense que ça peut, à mon avis, c'est une campagne qui peut très très bien, elle fonctionnerait très bien.
Voire mieux, peut-être
Voilà.
même.
Tout dépend, parce que si on la met dans les années 70, si vous allez en Roumanie, on essaie de Ceaușescu. Je vous conseille à ce moment-là de relire le roman de Dan Simmons, Les Fils de la Nuit. Enfin, il y a un petit côté, on peut jouer sur cette carte-là aussi, à la fois. Donc, je pense que, à mon avis, les années 70 pourraient être une époque assez sympa et peu exploitée, quoi.
D'accord. Oui, je disais, c'est même peut-être mieux de le caser là-dedans, dans cette époque-là, en 70. Parce que ça paraît, c'est vrai que
Moins
moi,
redit de masque.
puis le côté New Age dans les années 20, ça paraît un peu bizarre quand même.
C'est ça.
D'accord. Bon, on va pas trop s'attarder sur les questions, parce qu'en plus, vous avez bien défendu la chose. Mais messieurs, quand même, du côté des détracteurs, quelques questions, remarques? Non.
Wow, j'ai l'impression que c'est aussi un petit peu du. Alors, on prend plein de choses, on met dans le mixeur, on appuie un grand coup et on met un magnifique nom. Bah, j'ai l'impression un petit peu de choses un peu décousues où
Ouais.
on prend le bouquin de base, on le secoue un grand coup, on garde ce qui tombe et puis on met quoi.
Ouais, c'est ça, il y a un peu
J'avoue qu'il y
chacun
a
des
un côté
monstres.
fourre-tout quand même.
Ouais, c'est clair. Les monstres sont tous là, il y a tous les monstres de base et on les retrouve à chaque fois un pour chaque scénario quasiment.
Le truc, c'est
Il y a Guy.
il donne l'idée finalement de superposer plusieurs trames et plusieurs fils conducteurs. Parce qu'il y a Paul Lemon, il y a le Baron Hoffman, il y a la New World Incorporated. Enfin, moi, je l'ai lu, puis j'ai commencé à la faire jouer, ou je ne sais plus si j'avais joué, non, je crois pas. Mais j'ai commencé à la faire jouer, c'est ça que ça me donnait comme impression, c'est que on perd un peu les joueurs du fait des lignes directrices. Ils savent plus vraiment, enfin, je me rappelle que rien que l'introduction de la New World Incorporated, mes joueurs, ils n'avaient pas trop accroché, quoi. Ils avaient dit d'où elle sort cette société. Enfin, c'est assez délicat. C'est vrai que c'est. On a l'impression que ils ont voulu caser pas mal d'idées dans une même campagne, quand même. Je sais pas si vous en pensez.
C'est sûr,
Complètement
hein.
d'accord.
C'est sûr, hein.
Ça
Ça
fonctionne
fonctionne.
pas mal, je pense, quand même,
Ah
parce que bon,
oui,
c'est
ça c'est vraiment
progressif. Le côté monstre à chaque scénar, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au contraire, c'est quand même à partir du troisième scénar qu'on a du monstre vraiment. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est plutôt du classique dans le bon sens du terme. C'est pas le côté les ombres de Yog-Sothoth, c'est quand même assez resserré. On comprend qu'il y a un culte, on comprend que c'est un culte très ancien, on comprend qu'en fait, ils ont noyauté, ou plutôt ils ont créé cette société, placé leur homme de paille au sommet, leur messie. Non, en fait, non, moi, je trouve que c'est
D'accord,
assez
ça se tient.
cohérent. Oh, ouais, ça se tient.
Mais c'est vrai que d'un autre côté, j'aime bien aussi le côté pour découvrir un mystère A, et bien on va creuser dans le mythe et on va découvrir des choses pas forcément qui n'ont pas forcément de rapport avec l'intrigue de départ. Mais dans la nécessité, quoi.
D'accord, ouais. Ah oui, c'est puis enfin, il y a quand même du. Y a une petite question, c'est pas trop meurtrier? Y a quand même du lourd.
Voici, en Roumanie, là, c'est assez meurtrier tout de suite. Il y a quand même Nyokta qui dort sous le château, quand même. Et on
Voilà,
le rend au
ouais.
réveil, quoi. Donc
On peut enlever
là,
ça.
ouais, c'est sûr. Bah, si on veut se jouer meurtrier, là, il y a moyen.
Bah, c'est les années 80, quoi.
C'est clair. C'est clair.
C'est comme les
Ah, les
masques,
masques.
tu rentres dans le tableau, t'es mort.
Voilà.
Voilà. C'est ça, ouais.
C'était le côté Goonies. Que je pensais d'autre? Pouf, pouf. Ouais, dans le côté voyage, moi j'aime bien, donc ça, c'est. Vous le qualifieriez plutôt de pulp ou vraiment
Ouais,
d'horreur Lovecraftienne? Pulp.
Pulp horreur.
Ouais. Moi,
D'accord.
elle a commencé horreur, la campagne. Et en fait, elle a pris son point culminant en Roumanie en horreur. Et elle a pris un virage pulp complet. Et ça, c'est mes joueurs hein, qui en avaient marre de subir. Ils sont devenus des vrais Indiana Jones, à tenter tout et n'importe quoi pour plus revivre ce qu'ils avaient vécu en Roumanie. Et ils se sont éclatés.
Douillard, tu l'as joué entièrement aussi ?
Deux fois.
Deux fois, ah ouais, d'accord. Et la campagne en elle-même se suffit ou elle est bien documentée, tout ça ?
Non, elle fait 70 pages.
Non, il n'y a rien du tout. Hein.
C'est pas des années 80.
Le guide du Caire, le guide de Londres, le guide de Roumanie, bah il n'y a pas. Donc ouais, non, il faut se documenter pas mal, quoi, c'est clair.
Puis bah, le truc... ouais, excuse-moi, vas-y.
Non, vas-y.
Non, bah le truc, c'est que je pense qu'on est plus ou moins tous grosso merdo des mêmes générations. Quand moi, je l'ai acheté, j'avais 16 ans. Aujourd'hui, j'ai ma quarantaine tassée. Donc, je joue pas de la même façon. C'est ça le problème, en vérité. C'est que ces campagnes, elles ont pas bougé, mais nous, on a bougé.
Et tu penses... Elle fait partie des campagnes qui sont difficilement jouables maintenant,
non,
avec des gens comme nous?
Ah non, pas du tout.
Non, mais il faut l'enrichir.
Pas grave.
D'accord.
Et les scénarios, moi j'en ai rajouté quand même un bon paquet autour pour bien faire comprendre tous les enjeux qu'il y avait autour de la MWI, etc. Quoi. Ouais, j'ai vraiment fait pas mal de trucs en plus.
C'est ça, je pense.
Ouais, mais,
ce qui est sympa, c'est qu'elle est quand même elle est séminale au sens où elle fait partie du canon du jeu, puisque comme je vous dis, la NW, on la retrouve dans pas mal de campagnes. Vous avez, comment elle s'appelle, Nitocris des Masneratotep, qui est quand même dans les Unseen Masters, elle est dans un scénario où elle se fait appeler Thalassa Chandler, comme Edward Chandler de cette campagne, c'est en soi-disant son héritière. Enfin, elle tisse, cette campagne, elle lance des graines, je vous dis, le rejeton de l'Azathoth, il y a quand même... C'est quand même Keith Herbert, il a écrit beaucoup de choses pour le jeu, et donc ce qu'il a, les graines de son mythe qu'il a créé lui, bah, vous le retrouvez ensuite dans plein d'autres, déclinés dans plein d'autres scénarios et campagnes.
Oh, les autres, vous avez d'autres questions, Dark Keeper ou Sergi Saint ?
Non, c'était impressionnant.
Ouais, c'était exhaustif.
Bon, fais un petit tour de table.
Désolé.
Non, mais c'est vrai.
Au contraire, de ton côté, Dark Keeper, de 1 à 5.
Moi, je pense que déjà, rien que pour faire parvenir à tenir autant de mythes tout en restant plus ou moins crédible, je pense que c'est déjà un très bon point. Après, j'ai pas joué la campagne. Si, tu prendrais combien de joueurs pour la faire jouer ?
Oh là, moi j'avais fait jouer à 4.
4, hein.
Le nombre d'or.
Ouais, ça me semble pas.
Certaines parties à 3 qui tournaient très bien à cause des absences de joueurs. Hein. Ouais, qui tournaient très bien à 3.
D'accord, mais sinon, je pense que je mettrais un bon 4, oui. Pas grand chose à rajouter, mais après, vis-à-vis de la cohérence des voyages. La cohérence des voyages, par contre, c'est vrai que c'est toujours compliqué à mettre en place. C'est en général, je pense que c'est là où il y a le plus de boulot à faire, quoi.
Bah, c'est carrément ça. Hein.
C'est Paul, quoi.
Ouais, faut vraiment qu'ils aient accroché sur Paul Le Monde, quoi.
Ouais, pour aller en Roumanie, je peux te dire.
Ouais, c'est
tu vois
ça.
Où ils débarquent, ils font la gueule. Hein,
ouais, c'est le coin.
Ils ont fait la gueule. Hein. Oh là là, dans quoi est-ce qu'on allait se fourrer, putain. C'était infernal. Mais ils ont mangé, hein. Oh là là, les pauvres.
Je pense que le scénario de Beast est important. Le premier scénario, là, Suffer Little Children, là, où on rencontre Paul, il faut le faire jouer, puis il faut mettre plein d'autres scénars après pour que ça soit pas connecté tout de suite, que Paul, il existe dans la campagne, quoi.
D'accord. Ouais, c'est intéressant, ça. De ton côté, Serge Disson, 2 à 5 ?
Bah, écoute, je suis vraiment mitigé, parce que j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Parce que, comme disait, je pensais une Dark Keeper, mettre autant de choses à un tour de force. D'un autre côté, c'est le côté vraiment, ouais, on prend le mythe et puis chaque scénar, on va avoir une nouvelle bête, un nouveau monstre. Moi, au bout d'un moment, c'est pas ce qui me plaît des masses. Donc je mettrai 4 parce que j'ai envie de le lire, voir ce que ça peut donner. Par contre, le faire jouer, je mettrai 2.
Bah moi de mon côté je l'ai fait jouer et bah moi je suis un con, j'ai bien aimé les ombres, alors forcément vu que c'est mieux que les ombres et que je l'ai défendu la dernière fois, moi je lui mettrais un 3,5-4, 3,5 sans rebosser et 4 avec vos idées là, parce que j'ai eu pas mal d'idées données. Je pense que, comme tu l'as dit Douleur, je pense que moi je la jouerais dans les années 70, quoi, pour avoir en plus le côté
pouvoir plus faire passer le côté
politique.
Politique, le côté groupuscule et le côté méga société qui essaie un peu de dominer, qui essaie un peu de choses que j'avais du mal à faire passer dans les années 20. Quoi. Il y avait certains anachronismes que je trouvais qui j'avais du mal à faire passer, mais par contre, c'est le problème de ces trucs-là, c'est comme les ombres. Il y en a beaucoup plus. Hein. Dans les fungis, c'est truffé de très très bons scénars. Moi, j'avais adoré le scénar en Roumanie, putain. Le trip avec la musique de Wolf, avec la musique de Dracula, et mes joueurs ils avaient trippé à mort quoi. Et surtout après le scénar le premier scénar. Et je crois qu'en plus, je crois me souvenir, je suis tellement paumé dans le top, mais les scénars de Suffer Little Children, je crois qu'il est sur TOC.
Oui, il est sur TOC.
Hein, je l'avais rajouté. Mais il y a tout sur TOC. Faut trouver, c'est tout. Non, je mettrais un bon 3,5-4, ouais.
Bon. Honnêtement, oui. J'ai pas compris qu'ils aient réédité les ombres et pas celles-là.
Oui, il y a certains choix, oui.
Ouais, parce que celle-là, elle est vraiment, vraiment bien. Quoi.
Beaucoup plus cohérente.
Mes joueurs en gardent un souvenir, vraiment, 10 ans après, ils m'en parlent tout le temps. Quoi.
Ah oui, parce que attendez, je me suis gouré en vous parlant au début de la réédition. Celle sur laquelle a bossé Carter, c'est sur le rejeton d'Azathoth, putain.
D'accord.
Je
croyais que c'était un scoop.
Même pas. J'ai même pas lâché la sauce.
Là, t'es plus crédible, moi, enfin. Non,
c'est-à-dire que, honnêtement, cette campagne, si vous arrivez à bien accrocher Paul Lemond, et Paul Lemond, très honnêtement, vous pouvez le faire intervenir pas mal de fois. Vous pouvez même le faire intervenir dans des scénars du style ceux des années folles là, qui se passent à Deauville, ça peut très bien être un mec qui a été invité, il y a plein de scénars. Et si vous arrivez à bien l'introduire et à mieux introduire que moi je l'ai fait, la NWI, franchement c'est très très bon. Pas que ces trucs-là fassent trop catapulter.
Il y a même d'ailleurs un passage, j'avais oublié, où en fait ils envisagent la piste comme quoi les joueurs vont utiliser Paul pour invoquer l'esprit de Nofruka. Et à ce moment-là, le sorcier va... Et s'ils vont, ils peuvent interroger le sorcier au travers de Paul, ça peut donner une bonne séance aussi.
C'est bon ça.
Ouais,
bon. Écoutez messieurs, on va pas trop tarder parce qu'il est déjà tard. Je vous remercie infiniment d'avoir participé et défendu vos boulevards les uns les autres. Merci de nous avoir rejoints malgré tes obligations familiales.
J'écouterai le début avec attention.
C'est gentil. Bon, peut-être qu'il y aura encore un podcast marre des masques, on ne sait jamais. On a toujours l'impression que ça s'arrête, mais non.
On en a vraiment marre.
Il faut faire gaffe, on va avoir des podcasts marre des masques.
Mais on continue.
Je pense que ça ferait une très bonne conclusion au podcast de la marre. Mais écoutez, merci beaucoup, messieurs. Et puis, ben, pour tous les autres, aux chers auditeurs, n'hésitez pas à poser des questions sur les forums, parce que les participants à ce podcast, vous êtes tous assez présents sur les fofos.
Ouais.
Donc, n'hésitez pas, si vous voulez développer des idées ou quoi que ce soit, à poser des questions. Je me permets de dire que vous répondrez avec Poulpic sympathie.
Tu peux.
Ah oui, bien sûr.
On va essayer.
Sur ces bonnes paroles, messieurs, je vous dis Fungui et donc à la prochaine.
Fungui.
Fungui. De même. Today we are canceling the apocalypse!